Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la ville du Vésinet pour cette table ronde sur le parcours des femmes victimes de violences conjugales, psychiques ou physiques. Un échange réalisé en partenariat avec les associations France Victimes 78 et Pour Elles 78. Je vous présente nos invités avec nous. Jonathan Portier, directeur de France Victimes 78. France Victimes 78 existe depuis 30 ans sur le département des Yvelines. Vous apportez des informations sur les droits pour toutes les victimes d'infractions pénales. Vous les accompagnez dans leur démarche. Vous leur apportez un soutien psychologique. Votre association aide notamment les femmes victimes de violences. Et elles sont nombreuses. C'est une part importante de l'activité de votre association. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec nous également Aurore Sum. Bonsoir. Vous êtes juriste à France Victimes 78. Vous accompagnez les femmes victimes de violences conjugales dans leur démarche juridique. Porter plainte, ce n'est pas simple. Une action en justice, c'est long. Vous nous direz comment vous accompagnez ces femmes. Avec nous également Léonie Hervoir, bonsoir. Vous êtes psychologue à France Victimes 78. Vous intervenez après le premier contact avec les bénévoles et les juristes de l'association. Vous travaillez sur les traumas des personnes qui viennent vous voir. Vous les aidez à augmenter leurs ressources émotionnelles et on verra comment. Avec nous également, on les remercie d'être là, les représentants de l'association Pour Elles 78. Avec nous, Laura Pichot, vous êtes écoutante pour l'association Pour Elles 78. Bonsoir.
Bonsoir.
L'association a été créée au Vésinet en 2021. Elle s'adresse à toutes les femmes du Vésinet et à proximité immédiate. L'association vient en aide aux femmes en situation de détresse familiale, pas uniquement victimes de violences. À côté de vous, Daniel Chenevier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous pratiquez l'art-thérapie. Vous intervenez auprès de l'association Pour Elles 78. Vous accompagnez depuis septembre des femmes qui ont connu des accidents de vie, deuil, perte d'emploi, accident. On va découvrir votre association dans quelques instants, mais on va commencer avec Jonathan Portier, président, directeur de France Victimes 78. On va commencer à parler avec vous des violences conjugales. Les violences conjugales, peut-être d'abord cette première question, elles représentent une part importante de l'activité de votre association?
Effectivement, c'est vrai que nous, au niveau de l'association, on prend en charge toute victime d'infraction pénale, donc c'est assez large, mais les femmes victimes de violences conjugales intrafamiliales, ça représente entre 35 et 40% du public qu'on reçoit.
Et donc en nombre de personnes, ça veut dire sur une année, c'est plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines de personnes?
Alors là, sur 2021, on est sur 1800 victimes de violences conjugales et intrafamiliales sur l'année.
Ah, c'est considérable. C'est considérable sur un secteur géographique qui n'est pas particulièrement étendu.
Non, c'est une partie effectivement des Yvelines, puisqu'il y a trois structures d'aide aux victimes sur le département.
Et les femmes qui viennent vous voir, quel est leur parcours?
Alors c'est encore une fois assez vaste aussi, hein, c'est à tout moment de la procédure ou pas finalement, puisque les victimes peuvent venir nous voir avant un dépôt de plainte, après, pendant la procédure judiciaire ou même après un jugement pénal. Donc finalement c'est vraiment à tout moment du parcours que la victime peut nous saisir.
Alors c'est important de commencer par ce rappel à la réalité. Hors sum, je vais vous proposer de prendre le micro. Ces violences, on va le dire, et c'est important de l'entendre, elles peuvent toucher tout le monde, mais vraiment tout le monde, toute catégorie socio-professionnelle.
Oui, effectivement, il n'y a pas de limite. Ça touche les personnes aisées comme les personnes en situation de précarité. Et il faut rappeler aussi les violences conjugales. On pense aux couples mariés, généralement bien établis, mais les violences conjugales peuvent commencer dès très jeune, c'est-à-dire même dès l'adolescence, puisque le couple se forme généralement à l'âge de la puberté, vers 15-16 ans, et on a des jeunes filles qui subissent ce type de violence dès cet âge-là.
Et parmi les femmes qui viennent vous voir, vous savez un petit peu quelle est la proportion de femmes qui sont jeunes et en couple ou plus âgées?
Alors, je n'ai pas de chiffres en tête. C'est vrai que les personnes qui viennent nous voir ont plus, sont un peu plus âgées, entre guillemets, ou en tout cas ont dépassé la trentaine. Généralement, la plupart du temps, c'est des femmes qui vont avoir des enfants et qui vont aussi, parce que les violences conjugales amènent aussi aux violences intrafamiliales de manière plus large. Et donc, c'est des violences qui vont pouvoir, c'est des violences, par exemple, qui peuvent avoir lieu aussi sur les enfants. Et c'est là où les femmes vont pouvoir se questionner aussi beaucoup. Les jeunes filles victimes de violences, on en a effectivement moins parce qu'elles ont plus de mal aussi à se rendre compte que ce n'est pas forcément la norme, en fait. Ce n'est pas normal ce qui leur arrive.
Alors, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, hein, comment vous travaillez avec ces femmes. Hein. Vous êtes juriste et vous allez nous expliquer comment s'organise ce premier rendez-vous, comment vous les prenez en charge, comment vous les orientez. Mais avant, je voulais échanger brièvement avec Léonie Hervoir, hein, qui est psychologue pour France Victime 78. Parce que c'est vrai qu'on a envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a un profil particulier ? Est-ce que ces femmes de tous les jours, en fait ?
Il n'y a pas de profil particulier. Effectivement, ça touche ça peut toucher un peu toutes les populations, comme disait ma collègue Aurore Sum. Il n'y a pas de déterminant social. C'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est moins apte à être dans des situations de violence conjugale. Donc non, pas de profil particulier.
Et Aurore, ces femmes, en fait, elles vous font part de quel type de violence ? Parce que les violences, elles peuvent prendre plusieurs formes.
Alors, on a effectivement les violences physiques, qui sont les violences, on va dire, les plus reconnues par la justice, et où les femmes ont le moins de mal à venir nous voir, parce qu'effectivement, la réponse pénale qui pourra être adoptée est assez simple. Vous avez vécu des violences, vous allez à la police, vous déposez plainte. Par contre, effectivement, ce qui se développe, surtout ces dernières années, avec la libération de la parole, effectivement, je pense que tout ce qui est mouvement MeToo et aux alentours joue une bonne part là-dedans, on va avoir des victimes suite de violences psychologiques, qui sont beaucoup plus difficiles à déterminer, et dont le dépôt de plainte, c'est surtout les suites amenées au dépôt de plainte vont être beaucoup plus compliquées, mais la parole se libère et on a de plus en plus de femmes qui sont victimes de violences verbales, psychologiques, qui sont amenées à nous rencontrer.
Oui, Léonie, c'est vrai que c'est important de vous entendre aussi sur le sujet, parce que ces violences du quotidien dont on vient de parler, elles sont insidieuses et parfois, ces femmes elles-mêmes, elles ont du mal à se rendre compte qu'elles sont victimes de violences.
D'autant plus que les violences conjugales, c'est très large. On a tendance à... Enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance à me référer aux violences administratives aussi, aux violences économiques, aux violences sexuelles, physiques et psychologiques. Donc c'est vraiment très large, ça peut toucher un petit peu toutes les sphères du couple et de la relation conjugale. Et j'oublie votre question.
Non, c'était vous dire, en fait, c'est souvent insidieux et on ne peut pas toujours se rendre compte qu'on est victime de violence.
Ça peut être
de la dévalorisation, ça commence souvent par là.
Ça s'installe sur la durée, effectivement. Généralement, on a tendance à voir que c'est des processus qui sont vraiment... lent, qui s'installe sur la durée, petite goutte par petite goutte, et effectivement, la personne ne se rend pas forcément compte de l'installation des violences.
Et ça monte graduellement, Jonathan Portier, c'est d'abord des valorisations, des insultes, puis après ça peut monter progressivement vers les coups, la violence.
Oui, on peut voir, dans les profils qu'on peut accueillir, une graduation finalement dans le type de violence. On peut passer aussi des violences sur les biens, par exemple détruire des objets, et après passer sur de la violence physique. Donc souvent, il y a aussi des éléments en lien avec l'autre, des moments de vie particuliers, la femme qui tombe enceinte, des choses comme ça qui peuvent aussi venir cristalliser un problème au niveau du couple et faciliter le passage à l'acte.
Ça peut être des violences économiques aussi, on va prendre le chéquier, la carte bleue.
Oui, on a même des profils où effectivement les femmes n'ont pas de compte en banque en leur nom propre. Elles sont effectivement indépendantes, où le mari ne laisse que tant d'argent sur la carte pour qu'elle puisse faire les courses, ou qu'il laisse effectivement toutes les dépenses en lien avec les enfants à la charge de madame et qui garde le reste.
Vous disiez tout à l'heure que ces femmes, quand elles viennent vous voir, les violences se sont installées dans la durée. C'est des femmes qui viennent vous voir après plusieurs années parfois ?
Oui, c'est même des fois assez rare qu'elles viennent nous voir après le premier fait, finalement. C'est souvent l'accumulation qui permet une remise un petit peu en question, une prise de conscience, et qui va permettre de faire des premières démarches, qui sont pour le coup des fois un peu compliquées. Même venir nous voir au niveau de l'association, alors que... on est eu un lieu sécurisé, de soutien. Pour certaines personnes, c'est très compliqué de faire la démarche, de venir nous voir et de parler des faits.
Mmh. Et donc ça, c'est votre travail, d'abord de les écouter pour les aider à verbaliser.
C'est ça. Nous, l'idée, c'est proposer toujours un entretien finalement de première, enfin de première écoute, premier accueil, pour aussi évaluer un petit peu la situation, voir un petit peu les problématiques et pouvoir dire à la personne ce qui relève d'une infraction pénale et pouvoir après l'informer un petit peu sur les démarches qui sont à sa disposition.
C'est-à-dire que la plupart du temps, elles sont d'abord venues vous voir avant de se rendre dans un commissariat ?
Alors, pas la plupart du temps, mais je pense à des orientations partenaires, travailleurs sociaux, autres associations. Effectivement, il y a une procédure judiciaire qui n'est pas lancée. On est sur un processus de reconnaissance un petit peu de la violence subie et on vient nous voir pour savoir un peu comment peut se passer la procédure. Mais malheureusement, souvent, on arrive aussi à un moment où la procédure peut déjà être lancée, surtout avec les évolutions qu'il y a pu avoir au niveau législatif, avec la prohibition de la main courante pour les faits de violence conjugale intrafamiliale, où la victime qui, à la base, vient déposer une main courante se retrouve avec une procédure judiciaire à la clé alors que ce n'était pas l'objectif. Mais effectivement, maintenant, c'est de droit et le commissariat, la gendarmerie sont tenus d'engager en tout cas une enquête judiciaire dans le cadre de ces situations.
Alors, on va échanger avec Aurore. On va essayer de comprendre avec vous comment ces victimes sont prises en charge par l'association, comment vous les accompagnez. Il faut le répéter, hein, que les faits soient anciens ou récents, il faut en parler. Il faut en parler à une personne. Alors, ça peut être une association, mais ça peut être un proche, une proche, ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais c'est extrêmement important de parler. Et donc, c'est tout le sujet de notre conversation, hein, aujourd'hui. C'est de dire l'importance de libérer la parole. Et donc, ça passe par les rencontres que vous avez avec ces femmes. Comment se passe d'ailleurs très concrètement la première rencontre ? Donc, ces personnes, elles viennent vers vous parce qu'elles vous ont été adressées par des tiers, le plus souvent. Et comment se passe le premier entretien ? Il se déroule au téléphone, physiquement ?
Alors, soit elles nous ont été adressées, comme Jonathan a pu le dire, par des partenaires, soit on a aussi un bon nombre de cas où on a des partenariats avec certains commissariats dans les Yvelines qui vont nous adresser notamment les mains courantes déposées par des victimes de violences conjugales. Et ces victimes, nous, on va pouvoir les rappeler pour mettre l'association à disposition, leur expliquer notre fonctionnement, donc leur expliquer très concrètement qui est-ce qui exerce au sein de l'association, que ce soit le juriste et les psychologues, et leur expliquer que nous, on peut leur apporter de l'aide. Donc effectivement, le premier contact se tient généralement par téléphone. Et ensuite, on leur propose un premier accueil au sein de la structure pour leur exposer tout ce que nous, on leur propose, en fait, tout ce qu'on pourrait faire pour elles et avec elles. Et moi, plus personnellement, au sein des entretiens juridiques, l'idée, c'est de faire un petit point sur la situation, où elles en sont. Et là, à ce moment-là, c'est très variable. C'est-à-dire qu'on va avoir des victimes qui n'ont fait aucune démarche judiciaire, comme on va avoir des victimes qui n'ont fait qu'une main courante, comme on va en avoir d'autres qui ont fait une plainte et qui vont se dire, voilà, j'ai déposé plainte, mais qu'est-ce que ça change ? Et l'idée, c'est voilà, de pouvoir, en fonction de la situation de chacun, de leur exposer, là, vous en êtes à tel stade, là, voilà éventuellement ce qu'il va se passer ou ce qu'il peut se passer, ce que vous pouvez faire, ce qui va se passer si jamais il y a une plainte, par exemple, sans que vous ne décidiez quoi que ce soit. Parce qu'à partir du moment où il y a une plainte, il va y avoir le procureur de la République qui va être saisi des plaintes et il a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire que le procureur de la République va agir sans que la victime ne fasse une quelconque démarche. Et notre rôle, voilà, c'est de leur expliquer à l'instant T qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles doivent faire et qu'est-ce que peut-être elles vont un petit peu subir, ce à quoi elles ne s'attendaient pas en allant faire des démarches auprès des différents partenaires ou des commissariats, des services, des forces de l'ordre.
Parce que j'imagine qu'elles ont peur de porter plainte parce qu'elles ont peur des conséquences. Elles ont peur de cet homme, de...
Alors, c'est vrai qu'on a souvent effectivement la peur des représailles. Moi, la peur que je vois le plus, ça va être surtout, on a un domicile qui est commun, dans lequel souvent, alors quand il n'y a pas d'enfant, ça va être un petit peu plus facile, parce que finalement, c'est que elle avec elle-même, et à ce moment-là, l'idée, ça va être de changer de domicile. Et elles sont moins craintives. Effectivement, quand il y a des enfants au sein du domicile, là, il y a toute une procédure avec le juge aux affaires familiales derrière. Et puis le logement, moi, je ne veux pas laisser mes enfants avec monsieur, mais en même temps, je ne peux pas les prendre. Qu'est-ce que je fais ? Là où voilà, ça peut devenir un petit peu plus compliqué.
Et puis si on n'a pas non plus de travail, si on n'a pas de revenus, ça veut dire se retrouver à la rue.
Alors, généralement, on ne se retrouve pas à la rue parce que là, ça ne va pas être notre rôle à nous. Mais là, c'est le travail, justement, des travailleurs sociaux, que ce soit les intervenantes sociales en commissariat ou gendarmerie ou les assistantes sociales de secteur qui font vraiment un travail là où on ne peut absolument pas se substituer à elles, ce n'est absolument pas notre travail. Et là, on se repose sur elles parce que avec les dernières en plus évolutions législatives, il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour les victimes de violences conjugales, notamment qui sont prioritaires sur le relogement. Au niveau de... Alors après, encore une fois, cela dépend des revenus, mais une femme qui va être en situation de précarité va pouvoir être relogée en priorité sur un hébergement social, notamment avec ses enfants en cas de violence conjugale.
Et lors de ce premier entretien, vous leur dites que ça serait bien qu'elle porte plainte ou vous y allez progressivement ?
Tout va dépendre du profil et tout va dépendre de la situation. Je ne saurais pas vous dire, voilà, quand j'ai un entretien, ça se passe comme ça, parce que c'est propre à chacun. Voilà, c'est individuel. On a des victimes où on les reçoit une première fois et ça m'est arrivé, à la sortie de l'entretien, elles vont déposer plainte. On en a d'autres qui ont été déposées plainte avant. Et on a d'autres exemples où... on les reçoit une première fois et puis moi les victimes elles sont pas prêtes à déposer plainte parce que pour des raisons qui leur appartiennent et qui reviennent nous voir 6 mois plus tard en disant voilà là j'en suis arrivée, là c'est vraiment trop, la goutte qui fait déborder le vase, là je veux vraiment déposer plainte et là je vais entamer les démarches. Faut aussi leur laisser leur temps à elles parce que les pousser à déposer plainte tout de suite parce que nous on estime que c'est urgent. Bah, finalement, c'est pas que ça peut faire plus de mal que de bien, mais pour elles, pour leur construction et la construction de leurs enfants également, parce que je pense surtout quand il y a des enfants dans le foyer, ça peut être parfois problématique de déposer plainte trop tôt. Encore une fois, voilà, je mets quand même des gros guillemets, quand il y a une situation de danger, effectivement, il faut faire appel aux forces de l'ordre et aller déposer cette plainte-là.
Et comment vous arrivez à lever les réticences ?
Parfois, on n'y arrive pas, en étant tout à fait objectif. Après, c'est une situation de confort de confiance qui s'installe. Et là, effectivement, pour lever ces réticences-là, c'est là où on oriente beaucoup vers mes collègues, dont Léonie, parce que le travail des psychologues sur ce domaine-là va avoir un rôle important à jouer. Parce que voilà, les victimes sont, on va dire... enfermées entre guillemets avec elles-mêmes et le rôle des psychologues va être aussi de les questionner sur leur positionnement. Bon, Léonie pourra vous en parler mieux que moi, mais voilà, pourquoi je reste, pourquoi je ne pourrais pas partir. Et des fois c'est après quelques entretiens, on a des victimes qui ne déposent pas plainte, qui voient nos collègues psychologues pendant 2-3 entretiens et puis qui après les entretiens se disent ok, là c'est bon, je peux y aller, je me sens capable, je me sens en confiance pour y aller.
On peut peut-être d'ailleurs vous poser tout de suite la question, parce que c'est vrai que c'est vraiment un travail collectif, vous fonctionnez en binôme toutes les deux.
Effectivement, on travaille beaucoup avec les juristes, on échange souvent sur les cas dont eux, ils ont des choses judiciaires, enfin de l'ordre judiciaire en tout cas à traiter, et nous, on les accompagne psychologiquement. Je pense qu'il y a une notion importante aussi dans les violences conjugales, il y a aussi la notion de l'amour. C'est des femmes qui sont aussi amoureuses et qui aiment leur conjoint. Et c'est difficile de pouvoir le quitter parce qu'il y a toute cette dimension aussi amoureuse. Et c'est là où, en tout cas moi, dans les suivis que je peux avoir, où on travaille beaucoup sur l'indistinction entre cet amour et les violences.
Et pendant cette période dont on parlait où ça serait bien qu'elle porte plainte, mais il y a des réticences, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur. Donc vous faites tout un travail pour essayer de lever ces inquiétudes, ces peurs, sans jamais leur parler de la plainte. Vous travaillez sur leur ressenti, vous cherchez à leur redonner confiance. Quel est votre travail à ce moment-là ?
Nous, on va essayer, enfin moi en tout cas, je vais essayer de travailler avec elles sur le fait de poser des mots sur les violences, de pouvoir se rendre compte des violences, de pouvoir élaborer en fait ce qui s'est passé. Et le choix leur appartienne, en sachant que s'il y a des éléments alarmants, nous, on est obligé de faire quelque chose aussi au niveau judiciaire. Il faut qu'on puisse aussi alerter les services compétents de violence qui peuvent mettre en danger la vie de la personne ou des enfants. Donc, c'est un peu délicat parfois de pouvoir faire l'indistinction avec elles entre ce qui relève de nous, nos obligations légales, et de ce qui relèverait seulement de la plainte, entre guillemets. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Mais pleinement. On va revenir dans quelques instants sur la manière dont vous travaillez avec elle, mais je voulais revenir sur le parcours de la plainte qui peut être très long. Et donc là, c'est compliqué aussi de travailler avec ces femmes qui attendent maintenant que la justice fasse son œuvre. Mais la justice, pour faire ses œuvres, elle a besoin de preuves, elle a un temps qui est long, qui n'est pas celui de la victime.
Tout à fait. Alors, quand on va avoir des violences où le couple est Parce que quand on dit violence conjugale, on reçoit aussi beaucoup de victimes qui sont séparées, qui viennent de séparer, qui ont réussi à faire ce cap-là. Et c'est grâce à la séparation qu'elles arrivent à faire la démarche de déposer plainte. Mais quand elles sont encore en couple, effectivement, on a cette situation en même temps d'urgence. Et toute la question est de savoir, enfin, notamment la question du logement. C'est la question qui revient souvent. Et éventuellement d'une éviction du domicile. Quand on a une situation d'urgence, quand tout se passe bien, c'est assez rapide. C'est-à-dire qu'on peut avoir des procédures, ce qu'on appelle notamment les procédures de comparution immédiate, où la personne victime de violence conjugale va dénoncer les faits, l'auteur va être placé en garde à vue, et puis 48 heures plus tard, il va être déféré devant le tribunal et on va avoir une audience. Ça, c'est ce qui se passe dans le meilleur des mondes. Alors nous, effectivement, on en a tous les jours au tribunal dans le cadre du bureau d'aide aux victimes qu'on tient au tribunal de Versailles, mais c'est un pourcentage très très faible de l'ensemble des violences.
Donc ça veut dire que le reste du temps, vous travailler sur un suivi de la plainte en liaison avec les officiers de police judiciaire, les magistrats ?
Alors, ça va dépendre au niveau police et gendarmerie, ça va dépendre des liens qu'on va avoir aussi avec les commissariats et les gendarmeries, parce qu'il y a le principe du secret de l'enquête, qui nous est tout à fait opposable. Il va y avoir des commissariats et des gendarmeries avec qui on va avoir des conventions qui sont signées, donc on va avoir un accès un petit peu plus favorisé à ces plaintes et à ces procédures. Par contre, un commissariat qui n'est pas proche de nous, on va aller se renseigner sur la procédure, on peut tout à fait simplement nous dire oui, la procédure est en cours ou non, elle n'est plus en cours, et on ne peut pas avoir plus d'informations. Donc c'est là où ça peut être assez angoissant et problématique pour les victimes de violences conjugales de se dire, bah, écoutez, oui, c'est pas traité, c'est en cours, mais moi, qu'est-ce que je fais en attendant ? Normalement, en matière de violences conjugales en cours, on a toujours des petits moyens de d'essayer de faire accélérer les choses, de dire aux services compétents, attention, là, nous, on estime qu'il y avait une urgence, hein, la personne est encore en couple avec la personne qu'elle met en cause pour les violences. Et ça va assez vite. Par contre, ce qui est problématique, effectivement, c'est les victimes, les anciennes victimes de violences conjugales qui viennent de séparer, où les forces de l'ordre vont effectivement, à juste titre, estimer qu'elles ne sont actuellement pas en situation de danger parce qu'elles sont séparées de l'auteur, mais elles sont pas en danger généralement physique, mais il y a quand même tout un danger psychologique parce qu'il peut y avoir encore des menaces, des représailles. Et là, effectivement, c'est des procédures qui durent beaucoup plus longtemps et on doit expliquer aux victimes que notre temps quotidien n'est pas le même que le temps judiciaire qui est généralement beaucoup plus long.
Et j'imagine, Jonathan Portier, que pendant toute cette période, vous vous souciez de la sécurité de ces femmes.
Oui, et c'est vrai que dans le cadre des suivis qu'on peut proposer, on leur propose régulièrement finalement de faire le lien avec ces services pour être sûr que les plaintes sont toujours prises en compte, qu'il y a toujours des actes d'enquête en cours et pour être sûr de finalement de pas louper une décision qui serait prise sur les suites à donner. Parce qu'effectivement, la victime n'est pas toujours informée. Il y a beaucoup de situations où il y a des classements sans suite pour une infraction insuffisamment caractérisée, donc le fait qu'il n'y ait pas assez de preuves. Et le tribunal, des fois, il a un peu de retard. Il n'envoie pas toujours le courrier d'information. Et l'objectif aussi, nous, du suivi qu'on met en place, c'est d'être au plus près de l'information pour pouvoir informer la victime sur ses droits de recours et qu'elle soit finalement informée le plus régulièrement possible. Et c'est vrai qu'on essaie d'être vigilant sur vraiment les situations qui nous paraissent inquiétantes, de recontacter régulièrement la victime, de faire aussi plus de diligence pour s'assurer que finalement ça se passe bien et que la victime est informée régulièrement.
Alors on va échanger avec Léonie Hervoir qui est la psychologue de France Victime 78. C'est vraiment important de prendre conscience des violences pour pouvoir s'éloigner de son conjoint. Mais ces femmes que vous rencontrez, est-ce qu'elles arrivent à verbaliser ce qui leur arrive ?
Ça dépend. C'est vraiment le travail que je fais en premier lieu, c'est de pouvoir parler des violences, élaborer, réfléchir autour de ce qui leur est arrivé, de poser des mots sur les violences pour pouvoir accéder à autre chose après. On parlait tout à l'heure des procédures pénales à rallonge. Effectivement, pendant toute cette période-là, c'est difficile de pouvoir entamer un travail parce qu'elles sont vraiment dans l'urgence encore. Les violences sont réactualisées, en fait, par les procédures qui sont longues. Donc c'est plutôt ce qu'on caractériserait comme du soutien, c'est pouvoir offrir un espace sécurisant dans lequel elles peuvent venir décharger des choses qui sont difficiles.
Et alors justement, que vous disent-elles, sans trahir de secret ? Vous travaillez sur leurs ressentis ?
Elles viennent parler du quotidien, elles viennent décharger quelque chose d'une douleur émotionnelle qui est souvent assez intense, d'autant plus que ça vient résonner avec les violences qu'elles ont vécues déjà pendant qu'elles étaient en couple avec la personne. Et puis essayer, oui, de poser des mots.
Et des femmes viennent aussi avec un sentiment de culpabilité, parce que c'est très compliqué.
C'est presque systématique.
C'est systématique, ouais. Ouais.
Il y a un truc, si vous voulez, dans le trauma, de manière générale, il y a quelque chose qui est impensable. Ça ne devrait pas arriver, un événement traumatique. Et c'est très difficile à penser. Au niveau neuronal, c'est toute une mémoire qui a été bloquée, qui n'a pas pu être intégrée. Et la culpabilité, quelque part, c'est presque une réponse facile du cerveau qui vient d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé.
Surtout, comme vous le disiez très bien, il y a beaucoup de sentiments.
Beaucoup, oui, oui. C'est des sentiments très intenses. Si vous voulez, cette mémoire qui n'a pas été intégrée, elle est toujours intacte comme elle s'est déroulée au moment des faits. Et quand elle est réactualisée, les personnes ont l'impression de revivre ces événements-là.
Alors, comment vous faites pour les aider à travailler sur leurs ressources qui leur permettent de se relever et de pouvoir se dire « je vais partir ».
Moi, personnellement, je travaille beaucoup sur les émotions. L'idée de cette mémoire qui n'a pas été intégrée, elle n'a pas été intégrée parce que tout le centre émotionnel a été bloqué au moment de l'événement traumatique. Et donc, ça vient baisser les ressources émotionnelles. L'idée, moi, de travailler avec elle, c'est de pouvoir augmenter ces ressources émotionnelles pour pouvoir... pour permettre une intégration de cette mémoire qui n'a pas été intégrée de manière un peu latente, en tout cas derrière, en arrière, sans que ce soit vraiment conscient. Mais plus les ressources sont augmentées, plus on arrive à faire face à des situations stressantes, et moins on est submergé par ces émotions qui sont liées à cette mémoire qu'on qualifie de traumatique.
Donc vous travaillez à la fois sur l'aspect comportemental et cognitif.
Alors oui, moi j'ai une orientation qui est plutôt... ce qu'on qualifierait de cognitif et comportemental. Je travaille, donc c'est les TCCE, les thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. Moi, je travaille vraiment sur l'aspect émotionnel. Je suis formée à une prise en charge de cette troisième vague, du coup, des TCCE. La vague émotionnelle, c'est les thérapies d'acceptation et d'engagement. L'idée, c'est de pouvoir s'engager dans la vie malgré les douleurs, malgré les souffrances. L'idée n'est pas de nier en tout cas les douleurs qu'elles ont vécues, mais plutôt de savoir ce qu'elles veulent en faire.
Donc vous travaillez sur leurs ressources émotionnelles, pour chercher à les augmenter, c'est un peu ça ?
C'est travailler sur les ressources émotionnelles, les augmenter, leur permettre d'avoir plus de tolérance face aux émotions difficiles et de pouvoir s'engager dans la vie vers ce qu'elles veulent vraiment pour leur vie, malgré en tout cas les répercussions qu'il peut y avoir au niveau juridique, ces procédures qui sont longues ou même parfois au pénal, auprès du juge d'affaires familiales, des choses qui leur sont pas, enfin, qui leur conviennent pas par rapport à la garde des enfants ou aux mesures contre monsieur.
Et ce travail, vous travaillez avec un petit schéma, vous m'avez expliqué ça.
Vous avez fait la petite matrice, effectivement, ouais. Dans l'ACT, pour pouvoir faire la thérapie d'acceptation et engagement, l'acronyme c'est ACT. L'idée c'est de pouvoir schématiser ce qu'on pourrait qualifier de valeur, c'est les choses qui font qu'on est la personne qu'on a envie d'être, enfin en tout cas qui nous permettent de tendre vers cette personne, les actions sur ces valeurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la vie quotidienne pour nous approcher de cette valeur, de cette personne pardon, qu'on a envie d'être, et de l'autre côté un peu ce qui nous empêche d'y aller. Donc c'est de pouvoir faire poser sur papier ces différents éléments et pouvoir vraiment s'engager vers les valeurs.
Ça passe par un travail très long, j'imagine. Ça dépend des femmes.
Ouais. L'ACT, c'est assez pratico-pratique et c'est des mises en place quotidiennes. Quand les personnes s'en saisissent bien, ça peut être très rapide. Alors, c'est pas spécifique au psychotrauma. L'ACT, ça n'a pas été validé dans le psychotrauma. Mais c'est vrai que moi, ça a beaucoup de sens dans ma pratique, en tout cas. Et pour d'autres troubles qui ont été évalués par l'ACT, assez rapidement, hein, les personnes peuvent arrêter le suivi.
Alors je propose qu'on aborde avec Jonathan Portier un sujet dont on n'a pas encore parlé et qui est extrêmement important, hein, c'est quelle solution face à l'urgence ? Parce que il y a des cas qui sont dramatiques, et il faut réagir et réagir vite. Et on a vu que le temps peut être parfois long. Mais alors comment on réagit vite ? On a entendu parler ces dernières années du développement d'un outil qui est très, très utile à ces femmes, hein, qui est le téléphone grand danger. Vous y travaillez, vous essayez de faire en sorte que ces femmes dont vous sentez qu'elles sont les plus en difficulté, vous essayez de leur trouver, permettre qu'elles accèdent à ces moyens.
Alors, c'est vrai que nous, au niveau de l'association, on ne gère pas ce téléphone Grand Danger, puisque c'est une autre structure qui le fait, avec qui on est en lien. Et dans les situations qu'on peut prendre en charge, si on a vraiment cette inquiétude et si les conditions sont réunies, on va pouvoir orienter pour qu'une évaluation soit réalisée et après que l'association s'en saisisse en face et qu'il y ait un retour qui soit fait après au procureur et qu'une décision soit prise pour l'attribution d'un téléphone Grand Danger.
Et vous travaillez en collaboration avec le barreau de Versailles, hein. Vous avez passé une convention avec les
avocats.
C'est
ça, on a une convention de base, hein, Association d'aide aux victimes et barreau de Versailles, qui nous permet de demander une désignation d'avocat quand une audience est fixée devant le tribunal judiciaire de Versailles, d'avoir un accès rapide finalement à un avocat. Hein, dans les 24-48 heures, on peut avoir les coordonnées d'un avocat pouvant représenter une victime. Ça s'est un petit peu développé, hein, puisque le barreau de Versailles a mis en place une permanence avocat spécialisée pour les victimes, chose qui, voilà, ça fait des années qu'on demandait et qu'on n'avait pas. Finalement, depuis la rentrée 2020, c'est quelque chose qui s'est mis en place. Et donc, notamment pour les procédures rapides, Aurore en parlait, hein, des comparutions immédiates, ça nous permet d'avoir un avocat pour sûr pour l'ensemble des victimes convoquées dans ces procédures rapides. Et donc, ça s'est aussi développé pour les ordonnances de protection, qui ne sont pas une procédure pénale en soi, puisque c'est vrai que nous, on n'intervient que dans le pénal, donc on peut faire des désignations qu'au pénal, mais voilà, de façon exceptionnelle, pour ce type de situation, on peut demander la désignation d'un avocat pour une ordonnance de protection, et donc la victime est recontactée dans la journée par l'avocat de permanence pour évaluer la situation et voir si l'ordonnance de protection est la mesure la plus adaptée.
Merci. Alors, je propose maintenant qu'on étende notre sujet. On a parlé des femmes victimes de violence. On va parler aussi de ces femmes qui sont en situation de détresse. On va parler avec une autre association. C'est l'association Pour Elles 78, qui est représentée ici par notamment Laure Pichot, avec qui on va commencer par discuter. Donc, c'est une association qui a été créée au Vésinet, qui est toute jeune, hein, qui a été créée en 2021. Elle s'adresse à toutes les femmes du Vésinet et à proximité. Et elle s'adresse donc aux femmes en situation de détresse, pas uniquement les femmes victimes de violences. Donc ces personnes qui viennent vous voir, Laura, quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées ?
Alors ces femmes, elles peuvent être, donc c'est des problématiques assez variées, hein. C'est donc des problématiques parfois d'isolement, de deuil, de maladie, de problématiques conjugales, de séparation, enfin, donc c'est assez vaste. On n'est pas uniquement donc sur des problématiques de violence conjugale spécifiques, mais parfois derrière d'autres, en fait, problématiques, effectivement se cachent, en fait, des violences souvent psychologiques. On a beaucoup plus rencontré, en fait, de violences psychologiques que physiques. Et donc, on est effectivement présent pour les écouter, les identifier et parfois avoir des démarches auprès d'autres associations. Ça peut être comme les vôtres ou d'autres encore, hein, mais c'est effectivement assez varié comme problématique.
Voilà, vous êtes dans une écoute large, ce qui vous permet de mettre des mots sur des silences ou des situations où vous arrivez à déceler.
Alors, en fait, plus précisément, je pense que ces personnes arrivent avec des problématiques qu'elles ont identifiées comme une problématique de logement, une problématique de perte d'emploi. Et en réalité, en fait, il y a des problématiques bien plus larges que celles-ci. Donc ça nous permet, en fait, aussi de pouvoir les aider, de les soutenir dans d'autres aspects que celles qu'elles ont consciemment en tête. Alors qu'effectivement, on réalise qu'il y a beaucoup, finalement, de problèmes qui ne sont pas... qui bloquent, en fait, un petit peu l'évolution de la personne et qui les mettent dans une forme d'immobilisme. Hein, donc ça nous permet, effectivement, de les aider sur d'autres terrains que le problème initial, on va dire.
Alors, depuis votre jeune existence, vous avez rencontré beaucoup de femmes. Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent ?
Alors, on a rencontré, nous sommes une jeune association, hein, ça fait uniquement un an hein, que nous sommes présents, au Vésiné et donc également sur les communes avoisinantes. Alors nous, on a uniquement rencontré une quinzaine de femmes qu'on accompagne encore aujourd'hui hein, et qui sont des femmes qui sont venues pour des problématiques parfois assez lourdes, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient plus de logement. Donc la première a été quand même sur un phénomène assez, quand même assez difficile. Hein. Voilà, donc après les autres, c'est effectivement sur des problématiques soit donc familiales, de logement avec un risque d'expulsion, alimentaire, des problèmes également, on va dire, de maladie entraînant une perte d'emploi. Donc c'est très varié. En fait, nous, notre objectif, c'est de les soutenir à différents niveaux et de les mettre en relation éventuellement avec des experts. Donc on a... Voilà, c'est un petit peu la spécificité de l'association, c'est-à-dire qu'on a sélectionné, rencontré des experts, des professionnels hein, susceptibles de les aider. Ça peut être des médecins, avocats, notaires, assistantes sociales, médiateurs familiales, psychologues, effectivement, des coachs également, sophrologues. Hein. Donc notre objectif, c'est de pouvoir ensuite les mettre en relation avec d'autres professionnels de façon à ce qu'elles puissent, on va dire, être soutenues sur l'ensemble de leurs problématiques. Hein. Donc voilà un petit peu notre spécificité, bien que finalement, même si on a mis en place cette base d'experts, on réalise que l'écoute est finalement la démarche la plus importante dans cette situation, c'est-à-dire qu'elles viennent pour se poser, elles viennent pour déjà avoir souvent une écoute, on va dire, attentive, bienveillante, être aussi soutenue. Hein, je pense que c'est des femmes beaucoup qui sont dans l'isolement, hein, majoritairement, hein, isolement social. Donc c'est vraiment, enfin, la démarche principale est finalement l'écoute, bien plus qu'on ne l'avait imaginé au départ.
C'est ce que vous leur offrez dès le premier rendez-vous, c'est cette écoute. C'est ça. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à être présentes au moment du premier rendez-vous.
C'est ça. Hein, nous sommes en fait une équipe, là, nous sommes 5 écoutantes actuellement fixes. Hein, donc on va un petit peu développer ensuite notre bataillon. Et puis donc quand on les reçoit, nous les recevons soit effectivement en général à plusieurs. Hein, donc voilà, en général soit entre une écoutante et 2-3 personnes. Hein, donc on est effectivement là pour déjà recueillir, on va dire, leurs problématiques globales. Hein, et puis... Ensuite, à l'issue de cet entretien, qui est assez long en général, nous échangeons ensemble pour voir comment nous pouvons les soutenir, les aider et leur proposer peut-être des mises en relation, hein, puisqu'on partage également d'autres partenariats avec, par exemple, SOS Partage, le Secours Catholique, d'autres associations qui sont là éventuellement pour les aider de façon plus précise et urgente.
Donc vous réalisez un accompagnement sur un temps long, vous ne mettez pas un temps arrêté, non, c'est un accompagnement sur le temps long.
Écoutez, là on réalise que finalement on était parti sur à peu près une durée d'environ 6 mois. On était un petit peu sur ce type d'accompagnement. Et puis finalement, on réalise que certaines personnes ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus long que cela. Hein, c'est-à-dire qu'on on leur permet d'avoir effectivement donc un repère stable. Hein, c'est-à-dire qu'elles font des démarches, elles reviennent vers nous pour nous dire où elles en sont. Et on assure un suivi et un accompagnement. Et Daniel Chenevis en parlera plus tard. On leur propose un atelier d'art-thérapie où elles peuvent se rencontrer. Donc c'est l'occasion également de partage et d'établir aussi du lien social.
Alors justement, on va en parler tout de suite avec Daniel Chenevis, c'est bien que vous l'introduisiez, merci beaucoup. On va parler de l'art-thérapie parce que c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, j'aurais envie de vous demander, au regard de ce que vous avez entendu de nos amis de France Victimes 78, est-ce que l'art-thérapie pourrait aider ces femmes qui sont victimes de violences?
Oui, bien sûr. Donc l'art-thérapie, c'est un accompagnement par la créativité. La créativité, ça va être... Bon, chaque art-thérapeute va développer sa spécialité ou ses spécialités. Ça peut être le dessin, la peinture, le collage, le modelage, le théâtre, la danse, Et en fait... Ce qui est intéressant avec l'art-thérapie, c'est que on va passer par un autre créneau. C'est-à-dire que les personnes vont venir aussi déposer, hein, en art-thérapie, elles vont venir déposer leurs problématiques. Et évidemment, l'idée, c'est de les faire avancer ou de les aider à supporter ce qu'elles traversent. Et en fait, en art-thérapie, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on ne va pas passer par le langage d'une façon prioritaire. Et en fait, pourquoi passer par l'art-thérapie ? Parce que déjà, on n'est pas tous égaux face à l'expression orale. Il y a même des personnes, dans certains cas de traumatisme, qui peuvent avoir bloqué certaines... Je pense que vous en avez vu plusieurs, qui ont bloqué une partie des aires de Broca, enfin certaines parties du cerveau. Et donc la zone du langage se situe dans l'hémisphère gauche du cerveau. Et tout ce qui est créativité, c'est l'hémisphère droit. Donc tout ce qui est peinture, argile, enfin voilà, toute la créativité. Donc en fait, on va passer par l'autre hémisphère.
Donc vous essayez de travailler sur l'essence, en fait.
Voilà. Donc en fait, on va travailler énormément avec l'essence.
Le toucher, voilà, l'odorat même.
On va passer, ouais, tout à fait. Donc on va passer bien sûr par le visuel, tout ce qui est peinture, collage avec des images, c'est très visuel. Donc là, on va passer par... Oui, c'est ça, exactement, par l'essence. Moi, je travaille aussi beaucoup avec le toucher parce que je travaille énormément l'argile. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être très... le toucher, c'est le sens le plus important pour l'être humain. Donc en fait, c'est se reconnecter. Le sens, on se reconnecte à des sensations et on se reconnecte aussi à ses émotions. Donc ça, c'est pour des personnes qui traversent des choses très difficiles. On revient à des choses essentielles, en fait. Voilà, le toucher, c'est essentiel. Moi, je les fais travailler également avec du sable, par exemple. Enfin, voilà, vraiment avec de la matière. Et puis, donc là, ces femmes que j'accompagne en groupe pour l'association Pour Elles 78, en quoi le groupe est très intéressant pour elles, parce qu'on peut accompagner en art-thérapie soit en groupe, soit en individuel, parce que ces femmes, très souvent... se retrouvent isolées. C'est vraiment un très gros problème pour elles. Il y a ce sujet de l'isolement. Et là, déjà, elles vont avoir ce temps où elles vont se retrouver ensemble. Elles seront ensemble. Donc, on leur propose, en fait, de retrouver une vie sociale, quelque part, avec laquelle elles ont parfois coupé, parfois complètement, si elles ont un conjoint qui peut les isoler, en fait. Hein. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi un aspect... En fait, on leur propose le contre-pied, mais en positif, de ce qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'elles sont isolées, on leur propose une vie sociale. Elles ont peur, elles vivent même presque dans la terreur. On leur propose de la sécurité. Elles sont vraiment dans un lieu sécure. Elles savent que là, il ne va rien leur arriver, que ce qui est dit est confidentiel, qu'elles peuvent partager, qu'elles ne vont pas être jugées, que les émotions vont être accueillies. Donc, elles se sentent en sécurité dans cet endroit-là. On va leur proposer de la douceur aussi. Moi, ces femmes-là, je les accompagne avec beaucoup de douceur. Ça va se manifester dans... Je ne sais pas, je les vois choisir des plumes, enfin des choses très légères, parce qu'elles ont besoin de douceur. Et je vais aussi les accompagner... beaucoup avec le corps, parce que ce qui se passe, par exemple, des femmes qui subissent des violences... moi, j'ai accompagné aussi un groupe de femmes qui subissent des violences sexuelles ou qui en ont subi. Donc, quand il s'est passé quelque chose au niveau du corps, c'est très important aussi de passer par le corps. Donc, on va faire des... Il y aura des dispositifs qui seront vraiment plus axés sur le corps, parce que ça va leur permettre... Certaines personnes se sont presque déconnectées de leur corps, en fait. Hein. Donc, de se reconnecter à leur corps, à leurs sensations physiques, parce qu'on va passer, justement, par les sensations physiques.
Donc, ça libère les émotions. Et ensuite, est-ce que ça permet de libérer la parole ? Vous
Alors, voilà.
Construisez un échange ensuite avec
elles ? Bien sûr. Donc, dans une séance d'art-thérapie, en général, la séance est construite en trois étapes. Il y a une première étape d'accueil qui permet de voir déjà comment arrive la personne, surtout quand c'est un groupe. Donc, voilà, par exemple, moi, je vais leur faire choisir soit une carte ou un petit objet. Et puis voilà, en quelques mots, elles vont dire, présenter ce qu'elles ont choisi. Moi, ça me permet de voir comment elles arrivent. Et puis elles, elles peuvent dire, si elles ont envie, comment elles arrivent. En art-thérapie, rien n'est obligatoire et la parole n'est pas obligatoire. Elles le savent. Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer verbalement, mais si vous avez envie, faites-le. Donc certaines le font, d'autres sont soulagées de ne pas être obligées de parler parce que ça va passer par autre chose en fait. Et donc la première étape, on voit comment elles arrivent, parce que moi ça me permet peut-être d'être plus attentive à celle qui arrivera dans un état émotionnel très difficile ou bien avec, voilà, avec une problématique très lourde. La deuxième phase, il y a un dispositif qui est mis en place, c'est-à-dire il y a un sujet qui va être proposé, on va dire. Et puis sur la dernière phase, on propose, je leur propose de dire un petit peu ce qui s'est passé pour elles, comment elles ont ressenti tout ça, est-ce qu'elles ont eu des prises de conscience. Et moi, ça me permet aussi de voir comment elles s'en vont de la séance. L'objectif étant qu'elles repartent mieux que quand elles sont arrivées. Voilà. Alors c'est vrai que pour des personnes qui retournent dans leur environnement habituel, si elles subissent par exemple des violences, ben, on sait qu'elles vont retourner, que ça va recommencer. Mais en fait, le temps où elles sont là, ben, c'est un moment où elles vont... moi, je dis recharger leur batterie, c'est-à-dire qu'au moins, elles vont recharger leur batterie à ce moment-là.
Elles ont identifié qu'elles ont des ressources, peut-être aussi.
Voilà, donc évidemment, on travaille sur les ressources, on leur fait identifier qu'est-ce qui font qu'elles tiennent, par exemple, si elles ne peuvent pas sortir de cette situation, comment elles font, voilà, qu'est-ce qui les aide à tenir, parce qu'il y a quelque chose qui les aide à tenir. Parfois, elles disent « je ne sais pas ». Mais si, il y a toujours quelque chose, même si c'est l'espoir, ça peut être l'espoir que ça s'arrête, voilà. Mais il y a quelque chose qui les aide à tenir. Mais quand elles voient ce que c'est, ben ça les aide énormément, en fait. Donc elles vont se concentrer, c'est-à-dire que on ne peut pas s'attaquer au problème, parce que le problème ne dépend pas d'elles, hein, si le conjoint est violent, par exemple. Eh ben, on va se centrer sur la personne. C'est-à-dire que ces personnes-là, qui sont victimes, elles sont tout le temps en train de se préoccuper de ce que l'autre, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va me dire, etc. Donc là, on va leur demander de se centrer sur elles. Qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Qu'est-ce qui m'aide à tenir? Quelles sont mes ressources? Quelles sont mes émotions? Et c'est normal que j'ai telle ou telle émotion. Et ensuite, on va les dessiner ou les modeler. Et ce qui est aussi intéressant en art-thérapie, c'est que le fait de les mettre sur une feuille, de les modeler, on va pouvoir les regarder et en fait on va les mettre à distance finalement.
Donc ces femmes repartiront pas avec la toile qu'elles ont peinte, la sculpture qu'elles ont réalisée.
Voilà, ouais. Donc en fait on garde en tant qu'art-thérapeute, on garde tout ce qui est produit parce que ça peut être chargé... ça peut être très négatif et il ne faut pas qu'elles repartent avec leur nuage de colère ou leur peur qu'elles ont dessiné ou qu'elles ont modelé. Mais elles savent, on leur dit qu'on le garde pendant un certain temps. Elles peuvent, si elles veulent, revenir voir leur production, mais elles ne repartent pas avec, quasiment jamais. Voilà. Après, rien n'est jamais obligatoire en art-thérapie. Elles ont toujours le choix de ne pas faire le thème proposé ou de ne pas utiliser le médium. C'est-à-dire qu'il faut toujours... Moi, j'ai toujours une autre proposition à leur faire. Celle qui me dira, moi, je ne veux pas toucher à l'argile, ça ne me convient pas. Ben, je vais lui proposer autre chose.
Et alors, Laura, vous travaillez ensemble, c'est-à-dire qu'ensuite vous échangez avec Daniel pour savoir quelle est la meilleure solution pour chacune de ces femmes. Est-ce que c'est poursuivre cette séance ou être orienté ensuite vers Une psychologue, un psychologue.
Oui, c'est ça. Alors en fait, ces ateliers permettent quand même déjà aussi de créer du lien entre elles. Donc on a aussi, grâce à ces ateliers, aussi des nouvelles aussi un petit peu de leur évolution. Donc elles apprennent après, elles nous disent effectivement où elles en sont. Elles ont des démarches également qu'elles entament à la suite certainement de certains ateliers. Donc nous, on assure le suivi, et c'est-à-dire que d'une certaine façon, on centralise, on va dire toujours, l'accueil de ces personnes en poursuivant toujours, on va dire, des démarches complémentaires pour qu'elles puissent sortir du blocage dans lequel elles sont, puisque notre objectif, c'est que voilà, on vise l'autonomie de ces personnes-là en les soutenant et en essayant effectivement qu'elles puissent trouver leur chemin. Alors c'est quand même assez vaste, hein, parce que quand on est sur des problématiques de perte d'emploi, de deuil parfois, de problématiques de logement, on se rend compte que voilà, ce sont quand même des problématiques assez lourdes qui ne vont pas se résoudre en peu de temps, hein, mais voilà, ça permet effectivement déjà de créer du lien social, et ça c'est quand même très important. On constate que pour elles c'est aussi un soutien fort, et puis on continue un petit peu avec d'élaborer peut-être d'autres approches avec des groupes de parole pour femmes ultérieurement, d'entamer aussi peut-être des espaces de rencontre autour d'une marche à plusieurs, de façon à être toujours dans le mouvement, hein, parce que c'est des personnes qui sont restées longtemps parfois en inertie, hein, donc en situation de blocage. Voilà, tout ça vise effectivement à les remobiliser, hein, et à retrouver aussi des ressources, hein, puisqu'elles sont quand même le plus souvent dynamisées.
Hein, je et pense ça passe que par ça. La reconnexion avec le corps, hein, ce que vous exposiez très très bien tout à l'heure. Ouais. C'est très intéressant de vous écouter toutes et tous, parce qu'au final, on se rend compte que voilà, le lien, c'est l'écoute, Jonathan, c'est la bienveillance, c'est l'accompagnement.
Oui, effectivement, ça fait partie vraiment de ce qu'on propose au début. On ne juge pas finalement les personnes qu'on reçoit. Elles sont là pour déposer quelque chose, pour en faire quelque chose. Et donc notre rôle, c'est de pouvoir l'entendre et de pouvoir après les orienter vers ce qui est possible. Et effectivement, je rebondis sur ce qui a pu être dit, mais rompre l'isolement, c'est une des clés aussi pour permettre d'engager les démarches. On le voit, nous, par rapport au groupe aussi de parole qu'on peut proposer pour les victimes de violences sexuelles, où effectivement il peut y avoir des victimes de violences conjugales, et le fait de se retrouver avec des personnes qui ont vécu la même chose, bien sûr dans quelque chose d'encadré aussi par des professionnels, ça permet de se retrouver dans le, même si les histoires sont différentes, on a un vécu qui est quand même similaire. L'idée, c'est de pouvoir partager un petit peu ce vécu et de trouver après des solutions aussi ensemble pour aller mieux.
Merci beaucoup pour vos témoignages. On va vous proposer, si vous voulez bien, d'échanger avec le public qui est présent ici, si vous avez des questions à remonter, des remarques que vous souhaitez porter à la connaissance de nos intervenantes et intervenants. C'est à vous. On va venir vers vous avec le micro. Donc, si vous voulez apporter un témoignage ou poser une question. Alors, madame, on va vous donner le micro et je vais vous inviter à vous présenter.
Oui, Mario Gattaz, donc je fais partie de l'association Pour Elle 78. Et je voulais savoir si vous accompagnez physiquement les personnes au commissariat pour déposer une plainte. Et si vous les accompagnez lors des audiences, si vous assistiez aux audiences correctionnelles.
Alors, au niveau des plaintes, on ne va pas forcément accompagner physiquement. Ponctuellement, on va pouvoir le faire parce qu'on tient... En fait, on est basé à Versailles, mais on a des permanences délocalisées, donc notamment dans des commissariats ou dans des gendarmeries, ce qui nous permet d'être en lien aussi avec les professionnels là-bas et d'organiser ou de faciliter un dépôt de plainte. À la demande de la victime, on peut être présent, mais généralement, les services enquêteurs préfèrent entendre la victime seule. Concernant les audiences, par contre, oui, effectivement, on propose un accompagnement qui était effectué par des bénévoles quand on a essayé de développer un petit peu cette proposition. Et actuellement, on fait appel à des volontaires de services civiques qui sont spécifiquement formés et qui vont proposer de façon régulière un accompagnement physique à l'audience, puisqu'on sait que c'est une étape aussi un peu compliquée, un petit peu comme la confrontation aussi pendant l'enquête. l'enquête. C'est finalement la confrontation aussi à l'auteur. Et on a beaucoup de victimes qui ne s'estiment pas capables aussi d'assister à l'audience, d'être confrontées, de réentendre parler des faits aussi. Et la possibilité de proposer cet accompagnement, bah déjà, ça permet aux personnes d'assister aux audiences, ce qui est aussi plutôt apprécié des juges aussi, finalement de faciliter un petit peu aussi les échanges dans le cadre de cette audience. Alors ça remplace pas le rôle de l'avocat, qui est vraiment aussi de représenter les intérêts, de chiffrer aussi les demandes possibles, mais c'est vraiment un accompagnement physique, moral, puisqu'on va préparer avant l'audience, accompagner pendant et faire un point après.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, une remarque?
Oui, sur l'effet qu'il y ait plusieurs permanences.
Très bien. Écoutez, bah, s'il n'y a pas d'autres questions... Oui, monsieur, bonsoir.
Oui, bonsoir. Non, moi, je voulais simplement savoir, est-ce que vous assurez un suivi? Est-ce que vous savez ce que toutes ces femmes victimes de violences deviennent après? Est-ce que vous avez un peu une visibilité sur leur parcours une fois que le cap difficile est passé? Est-ce que vous êtes dans l'urgence et que... Bon,
Alors, on intervient vraiment à tout moment. Donc, en fait, il se peut aussi que des victimes nous saisissent après qu'il y ait eu une procédure, mais qui finalement vivent encore les conséquences de l'infraction et de la situation. Et en fait, si on prend l'exemple, par exemple, des violences sexuelles, on peut recevoir des personnes qui ont subi des violences 5 ans, 10 ans, 20 ans avant. Là, on n'a pas forcément de limite non plus sur la durée de l'accompagnement ou au moment où on va intervenir. L'idée, nous, de notre intervention, c'est vraiment tant que c'est en lien avec l'infraction pénale, que les conséquences sont en lien avec l'infraction pénale, on va avoir matière à intervenir.
C'est important d'être conscient que ça peut durer très longtemps.
Oui, on a des suivis, notamment des suivis de victimes de violences conjugales qui se font sur, effectivement, des fois 2-3 ans. Après, l'objectif, c'est effectivement aussi de sortir un petit peu de tout ça. Donc, quand un suivi s'arrête, finalement, c'est une bonne nouvelle pour nous. On préfère que le suivi s'arrête. Mais on va laisser la porte ouverte en cas de besoin.
Et sinon, j'avais une autre question peut-être pour votre psychologue. Mais vous en avez parlé de façon indirecte. C'est, quand on parle de ce genre de situation, moi, je pense toujours à ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire la victime qui défend son bourreau. Est-ce qu'on rencontre ce genre de situations qui sont complexes quand même? Alors, vous l'avez évoqué indirectement avec le lien amoureux.
Votre question est assez spécifique. Je ne connais pas très bien le syndrome de Stockholm. Ce sera compliqué pour moi de pouvoir en parler. Mais il y a plusieurs... composantes qui peuvent faire que c'est compliqué pour la victime de pouvoir sortir des violences et de pouvoir en parler. Effectivement, il y a le fait d'être encore amoureux de son auteur. Ça, c'est compliqué. C'est une personne avec qui on a projeté un avenir, avec qui on voulait avoir des enfants. Donc, c'est toujours compliqué aussi de pouvoir mettre terme à cette relation. Il y a aussi toutes les espérances personnelles dans la projection du couple. Dans toutes ces projections sociétales aussi, de pouvoir former un couple avec deux parents, qu'est-ce que ça implique de pouvoir se séparer pour les enfants, pour elles, et aussi le facteur économique quand les personnes n'ont pas d'emploi. Il y a aussi le syndrome de Stockholm, je ne sais pas, je ne l'ai pas évalué, effectivement, mais il y a beaucoup de choses qui nous rattachent à l'auteur, au couple et aux violences. Et effectivement, pouvoir élaborer, pouvoir réfléchir, poser des mots autour des violences et de ce qui nous a fait rester, ça permet aussi d'en sortir.
Merci. Merci beaucoup pour votre question. Merci à chacune et chacun pour ces échanges. Je vais peut-être vous demander, si vous le souhaitez, conclure et en même temps en profiter pour donner les coordonnées de vos associations respectives. Je vous en prie, Jonathan.
Du coup, donc pour l'association France Victimes 78, donc on a un standard téléphonique, hein, le 01 30 21 51 89, et également une adresse mail contact qui est contact au singulier @francevictimes au pluriel 78.fr. Donc voilà, on est ouvert du lundi au vendredi et on tient plusieurs permanences. On est basé à Versailles, mais voilà, on va intervenir sur les secteurs de Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Bennes, Oudan et Rambouillet. Et bientôt Maison Lafitte.
Merci.
Et concernant l'association Pour Elle 78, nous sommes donc joignables, nous, au 06 23 45 90 54, donc je vais peut-être répéter, 06 23 45 90 54, ou par mail, donc pourelle78@gmail.com. Voilà, et nous avons également un site sur lequel on peut
trouver des informations.
Voilà, trouver des informations.
Eh bien, un grand merci à toutes et à tous d'être venus jusqu'à nous. Donc, Jonathan Portier, le directeur de France Victimes 78, Léonie Hervoir, psychologue de l'association, Aurore Sume, juriste de France Victimes 78. Et merci également à Laura Pichot, écoutante pour l'association Pour Elle 78, et Daniel Chenevier, qui pratique donc l'art-thérapie pour l'association. Un grand merci à chacune et chacun, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous ici au Vésinet.